Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Pour le plaisir de vous retrouver chaque dimanche et le plaisir aussi de votre fidélité hebdomadaire. Slimane Dazi, bonjour.
Bonjour.
Pour vous aussi, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Vous allez nous parler de Indigènes de la Nation. C'est le titre de votre ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Don Quichotte. Il s'agit d'un récit et non pas d'un roman. On va rappeler qu'entre un récit et un roman, c'est qu'il est question de vous. On est dans une autobiographie dans le récit. En tout cas, on est dans quelque chose de très personnel, de très singulier. Tandis que dans le roman, on est dans le romanesque. Même si l'écriture pourrait être, comme on dit, romanesque, en réalité, elle est l'histoire de votre vie. Vous présentez Slimane Dazi, vous êtes comédien, on vous a connu, c'est ce que nous rappelle et votre biographie dans un film qui vous a illustré en tant que et révélé en tant que comédien dans Un prophète de Jacques Audiard, c'était il y a bien longtemps. Vous avez ensuite été dans la réalisation du très beau film de Rachid Djahidi, Rengaine, puis des films ont suivi, des films de télévision aussi, des séries télévisées. En tout cas, vous êtes très attaché à la fois à votre métier, vous êtes comédien, même si ce métier est arrivé sur le tard, vous nous le rappellerez dans un instant. En tout cas, vous êtes très attaché à votre histoire, à votre identité et au cinéma. Tout ça se mêle dans ce livre et dans ce récit, puisque nous vous racontons justement dans ce Indigène de la Nation qui, je le rappelle, vient de paraître aux éditions Don Quichotte, l'histoire de votre vie, dans ce tumulte d'une identité, dans ce tumulte d'être comédien, d'être assigné à être un comédien algérien, d'être un citoyen français qui s'appelle Slimane Dazi. Tout ça se mêle dans votre récit parce qu'il porte en vous, avec émotion et avec beaucoup de détermination, justement, votre identité. Voilà pour vous présenter. Brièvement, vous êtes né à Nanterre et vous êtes, cela est dit aussi dans la présentation, vous êtes aujourd'hui dans cette interrogation identitaire autour de quémander la nationalité française alors que vous êtes terriblement, non pas français mais parisien, vous le dites aussi. Qu'est-ce qui vous a animé ou en tout cas qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, de prendre la plume et plus du tout l'image pour vous représenter, en tout cas vous mettre en situation d'exister, mais d'écrire cette histoire dont je parle, qui est cette vie de comédien et cette vie de français. Ouais. Alors, ne l'est pas tout à fait, puisque vous circulez avec un passeport vert, qui vous pose quelquefois beaucoup d'humiliation, beaucoup de déboires aussi, beaucoup d'interdits. Et tout ça est écrit avec beaucoup d'émotion dans votre écriture.
Je vais juste répondre assez brièvement. Parce que vous avez un petit peu ciblé le pourquoi du comment j'ai pris
la plume. Oui, mais vous allez nous le raconter.
Oui, bien sûr, pour le pourquoi du comment j'ai pris la plume pour noircir un peu mes mots. Les mots qui me font barrière à chaque fois que je pars voyager pour le travail ou pour le plaisir. Là, en l'occurrence, c'est surtout pour le travail que... Je me suis retrouvé face à des situations absolument absurdes et complètement, totalement dingues au niveau de l'humiliation, au niveau de... Et il a fallu que je prenne vraiment, vraiment beaucoup sur moi pour ne pas craquer, quoi, pour ne pas péter un câble, hein, comme on pourrait dire vulgairement. Et je me suis décidé à prendre la plume le jour où Laurent Rigoulet il m'a interviewé après les derniers Parisiens.
Et c'est votre dernier film, le dernier long métrage?
Non.
Non, c'est pas le dernier, c'était.
Non, c'était il y a deux ans. Mais enfin, c'est le film que j'ai fait avec Reda Kateb.
Avec Reda Kateb.
Le film de Écho et Amé de la rumeur. Voilà. Et c'est Laurent Rigoulet de Télérama qui m'interview, qui fait un papier sur moi, et juste à la fin de l'interview, il me demande « Bon, alors, c'est quoi les projets ?» Et puis, ça me vient comme ça, naturellement, et je lui réponds « Les projets, c'est que demain, je dois me lever, et c'est pas de gaieté de cœur pour aller au CCI, à Porte de Champéry, pour aller faire un test de langue française pour ma demande de réintégration à la nationalité française. » Et donc, à partir de là, il est tombé un petit peu à la renverse. Et il m'a dit, comment ça, un test de langue française? Il m'a dit, t'es pas français. Il a vu que j'étais né en 1960, à Nanterre, etc. Titi Parigo, enfin, bref. Il est vraiment halluciné. Et là, du coup, il me dit, bon courage, donne-moi des nouvelles. Et puis c'est lui qui m'en donne une semaine après, et il vient me voir et il me dit, écoute, j'en ai parlé à mon éditeur, parce qu'il a, il est aussi auteur, en plus d'être journaliste, il a écrit Brûle, un livre qui s'appelle Brûle, et à ce moment-là, il me dit, il y a Stéphanie Chevrier, mon éditrice,
des éditions Don Quichotte,
des éditions Don Quichotte, qui souhaiterait te rencontrer pour parler avec toi et à dire la vérité. Ça serait vraiment, elle aimerait savoir si tu serais intéressé pour écrire ton histoire sous forme de livre. Et puis voilà, c'est parti de là. Voilà.
Et du coup, il a fallu quand même se livrer, se raconter à la fois, parce que en vous présentant peut-être un peu longuement, mais en tout cas, c'est important de souligner ce que j'évoquais dans cette présentation. Il y a aussi l'idée que dans ce livre, dans ce récit, il y a quand même une histoire très personnelle, l'histoire familiale. Il y a aussi tout ça que vous racontez aussi. L'histoire familiale, une famille de neuf, vous êtes... la fratrie est importante, comme ces familles de l'immigration algérienne de l'époque. On est dans une histoire où chacun, chacune, dans cette fratrie, va... avoir cette idée d'appartenir à la France parce qu'on y est né, mais d'avoir aussi ce regard avec l'Algérie, on fait ces allers-retours avec l'Algérie, tout ça aussi vous porte dans votre vie.
Bien sûr.
Avant, je rappelais que c'était sur le tard que vous devenez comédien, mais dans toute votre vie, vous avez aussi cette double appartenance.
Mais bien sûr, et puis cette double appartenance, c'est une richesse, comme on peut l'avoir chez les Italiens, les immigrés d'origine italienne ou d'origine polonaise, c'est absolument pas une tare. Voilà, c'est juste...
C'est pas un problème non plus.
Ah non, c'est absolument ni une tare, ni un problème. Moi, je pense que c'est une valeur ajoutée. Et non seulement je le pense, mais j'en suis convaincu. Et quand vous parlez de vie personnelle, et puis dans l'écriture, qu'est-ce que ça fait de se livrer? Bah, c'est la première fois où, très honnêtement, je me mets à nu, je me mets à poil. Et... J'en ai gardé sous la pédale parce que là, j'ai vraiment voulu cibler à partir du problème, de cette absurdité autour de mon identité. Et j'ai voulu en parler pour rester efficace, parce que quelque part, je me fais, alors sans le claironner, mais je me fais un petit peu quelque part le porte-parole des 25 000 ou 30 000 personnes qui n'ont pas ma visibilité et qui sont dans le même cas de figure que moi. Et ça, c'est un acte politique. Et il arrive à un moment donné où il va falloir que, on nous entende, on l'entende. Pas qu'on nous entende, mais qu'on entende et qu'on ouvre les yeux. Que ce problème-là, il fait partie de l'histoire de France. Et qu'il arrive à un moment où il va falloir s'arrêter dessus et puis le régler, ce problème. Parce que c'est un réel problème qui a fait, sur les générations qui sont venues après, mais qui a fait des dégâts, des énormes dégâts.
Vous avez raison de parler de l'histoire de France, parce que dans le titre même, il y a deux mots qui sont importants, qui sont indigènes, c'est l'histoire de France aussi, et qui est nation, qui est l'histoire de la France. La nation française, l'indigénat, c'est un rapport à la France. Donc ce titre, il n'est pas au hasard aussi, il n'est pas une image de l'esprit, il est vraiment une affirmation d'un passé dont vous êtes issu.
Mais bien sûr.
D'un territoire colonial, d'une Algérie française. Et d'appartenir à une nation, ici.
Il est absolument lié. Il n'est pas, il n'est pas innocent. Le titre n'est pas innocent parce que c'est comme ça que je me ressens encore. C'est-à-dire que je suis pas français, mais en même temps, je suis un enfant de la nation. Je suis né français en 1960. J'ai toujours vécu en France. J'ai fait mes études. Le peu d'études que j'ai fait, c'est en France. Je paye mes impôts depuis tout le temps, donc je ne comprends pas pourquoi je suis considéré, pourquoi nous sommes considérés comme des Français de seconde zone. Voilà.
Être Français de seconde zone, c'est être assigné à être un homme à part.
Quelque part, quand justement pour revenir au voyage, etc. Oui, on est assigné à être un homme à part quand. Tu passes la douane, tout est en règle, tu vas pour aller prendre l'avion, et puis qu'on te mette de côté et qu'on te dise arbitrairement, non, tu prends pas l'avion, quoi. Pardon ? Non, tu prends pas l'avion. Vous ne prendrez pas l'avion. Mais pourquoi ?
Sans explication.
Les explications, c'est que...
Le passeport est vert.
Le visa, c'était un visa multiple que j'avais pour aller à Dublin, donc en Irlande, pour tourner, ça a fait un scandale puisque la MGM a porté plainte contre la société Air France. Je ne devrais pas citer, mais c'est la vérité. Et c'était par rapport à des employés qui sont, enfin, une société qui est employée par Air France, qui sont des sous-traitants, société de sécurité, et voilà, qui se permettent de
faire... Ils faisaient du zèle, ils faisaient de la discrimination, un peu tout ça.
Délit de faciès. Oh. Et ce qui est hallucinant, c'est que la personne qui m'a interdit l'accès à l'avion, elle était tout sauf bourguignonne, quoi. Enfin, au niveau de son faciès, elle. Oh. Et donc, voilà, quoi. Donc, c'est continuellement des répétitions d'humiliation de ce genre qui font que, bah oui, il arrive à un moment donné où ça devient un petit peu très, très compliqué, quoi. Ça m'a rendu malade, quoi. C'est une histoire de perte de temps, c'est une histoire de perte d'argent, c'est une histoire de... Et puis c'est une histoire de
d'humiliation, fondamentalement, bien sûr.
D'humiliation permanente, et ça fait que, psychologiquement, tu sais pas où t'en es, quoi. Tu ne sais pas où tu es. T'es toujours écartelé.
Et ces humiliations, ces propos racistes que vous pourriez entendre, c'est des choses que vous avez entendues aussi dans votre jeunesse, dans un passé plus lointain que celui qui nous rassemble là autour de ce livre, qui est lié au fait de votre métier, de... difficulté de circuler, comme vous l'avez dit, en vous refusant de monter dans un avion pour Dublin. Est-ce que dans votre vie, de manière générale, ces humiliations, vous les avez subies?
Alors, voilà. Alors, par rapport au racisme, si je dois en parler et très sincèrement, je pense que le racisme, on l'a subi comme d'autres l'ont subi, mais il était frontal. Il avait le mérite d'être clair. Voilà, oui. Que ce soit... Mais vraiment, ça, je parle de ça dans les années 70, jusqu'à début des années 80. Et puis, début des années 80, il y a eu cette espèce de vague d'espoir avec l'arrivée de Mitterrand. Et ça a été, pour moi, hein, ça a été vraiment la plus grande claque, la plus grande veste, pour moi et pour tous les gens de notre génération, la plus grande veste...
La déception, très vite, au lendemain de ce 81.
Au niveau de la déception et au niveau surtout de l'hypocrisie, quoi. Que là, c'était, on a compris ce que c'était que la politique. On a compris, enfin, moi qui n'étais pas politisé, j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai vraiment, vraiment compris la manipulation qu'il y avait autour de tout ça. Et on s'est fait vraiment rouler dans la farine, quoi.
Slimane Dazy, indigène de la nation, c'est le titre de son ouvrage. Il est l'invité de rencontre. Ce livre vient de paraître aux éditions Don Quichotte. On le retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que je reçois Slimane Dazy. Nous parlons de Indigène de la Nation. Ce livre vient de paraître aux éditions Don Quichotte. Il s'agit d'un récit. Nous en parlions au début de notre rencontre et de ce parcours de Slimane Dazy, parcours du combattant, quand il veut aller acquérir la nationalité française parce qu'il aime la France, Slimane Dazy. Vous l'aimez terriblement, vous me disiez hors antenne il y a un instant.
Évidemment que j'aime la France parce que c'est, le pays qui m'a fait découvrir... C'est le pays qui m'a fait découvrir toutes les premières saveurs au niveau culinaire, mais aussi c'est le pays qui m'a fait découvrir l'amour de la langue. C'est le pays qui m'a fait découvrir l'amour tout court. C'est le pays qui m'a fait aussi découvrir d'autres cultures que la culture française en partant de la France. Que ce soit la culture de mes origines ou que ce soit la culture outre-Atlantique pour parler de musique ou de cinéma. Et c'est le pays qui m'a fait découvrir ma passion en tant que cinéphile avant que je devienne acteur donc professionnel dans ce métier. C'est le pays qui m'a fait découvrir le néoréalisme italien, c'est le pays qui m'a fait découvrir le cinéma d'Abbas Kiarostami, c'est le pays qui m'a fait découvrir toute ma richesse culturelle. Donc comment ne pourrais-je pas l'aimer? Comment ne pourrais-je pas être reconnaissant à tout ça? Évidemment que je l'aime,
Vous êtes un passionné, Slimane Dinzi. Comment vous êtes arrivé au cinéma, passionné de culture, et du coup, comment devient-on comédien? Évidemment, dans le livre, on apprend que avant d'être devant une caméra à tourner, vous êtes ventouse. Vous êtes ventouseur,
ouais,
c'est ça?
Ouais, ouais, ouais.
C'est-à-dire que vous calez les ventouses qui vont baliser les espaces où se garent les voitures lors d'un tournage, c'est ça?
Ouais,
il y en a régulièrement au coin de ma rue, d'ailleurs.
Ouais, voilà. Ça peut un peu irriter les riverains.
Oui.
Je sais. Alors, ça s'appelle de la réservation d'emplacement pour les tournages quand c'est des tournages en extérieur. Et, donc le ventousage, c'est préparer en amont toutes les équipes de tournage qui vont arriver. Et quand je parle de préparer, c'est préparer d'abord physiquement, techniquement, c'est-à-dire avec les cônes, préparer, essayer de vider le plus diplomatiquement, de faire le vide et de rendre cette ventouse blanche, c'est-à-dire qu'on vide totalement la rue de toutes les voitures qui y sont, et croyez-moi, c'est vraiment du travail. Donc on s'y prend entre 24 et 48 heures à l'avance, tout dépend, voire même 96 heures, tout dépend de l'ampleur du tournage et puis du temps que ça va durer. Et donc tout ça, ça demande quoi? Bah ça demande un investissement personnel et surtout de prendre sur soi, parce que le contact avec le riverain sur Paris, quand on leur parle de tournage de film, ça devient très limite dangereux, quoi. Tellement les gens n'en peuvent plus, parce que c'est Paris, c'est un décor vivant de cinéma. Donc et puis aujourd'hui, bah les gens ont bien compris que on se dit les gens. Je ne parle pas que du riverain, je parle de même les productions de cinéma ont compris que il faut aussi s'expatrier et puis aller tourner en province, aller tourner ailleurs, parce que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir les autorisations. Voilà, donc c'est un vrai métier qui est un métier qui n'est absolument pas connu, et c'est marrant parce que je parlais de Français, on parlait de Français de seconde zone, et là, c'est des métiers de seconde zone. Et pourtant, c'est indispensable.
Alors, être ventouseur il y a longtemps, être comédien aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait le pas pour aller vers le métier de comédien? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, un réalisateur vous a repéré? C'était vous qui aviez envie de ça? C'était quand même aussi ce que vous souhaitiez faire comme métier?
Eh ben.
Parce que c'est sur le tard quand même que vous devenez comédien.
Ouais, c'est à 41 ans. Très 41 ou 42 ans, je me souviens plus exactement. C'est 41 ou 42. Bah très sincèrement.
Gueule de métèque, on a dit.
Très sincèrement, Samia, c'est Rachid Jaidani qui vient me chercher. Et ça,
le réalisateur de Rengaine.
C'est sur Rengaine, il vient me chercher. À l'époque, voilà, il était avec sa petite caméra, toujours petite caméra à la main, et puis il vient et puis il m'appelle et me dit c'est toi le fil conducteur. Le fil rouge de mon film, c'est toi le grand frère. Je voudrais raconter une histoire qui nous appartient, mais à partir de l'intérieur. J'ai pas envie que ça soit un regard extérieur comme ça a déjà été fait, pour ne citer personne. J'ai envie que ça soit moi qui suis quelqu'un de l'intérieur, qui suis quelqu'un de la même origine que toi. J'ai envie d'écrire nos histoires. Et pas simplement des histoires de quartier, des histoires qui partent du quartier, mais qui racontent beaucoup plus que des histoires de quartier, qui sont des histoires, en fait, qui pourraient parler à n'importe quel, à n'importe quel individu, quelle que soit son origine ethnique ou religieuse. Donc, voilà, il est parti sur un sujet qui m'a, quand il m'a proposé d'interpréter le personnage de Slimane dans Rengaine, je lui ai dit, écoute, je suis pas acteur, donc trouve-toi un acteur. Et il m'a tellement pas lâché, qu'il m'a convaincu. Et puis ensuite, c'est en regardant un petit peu chez lui des rushs qu'il m'a montré, je me suis pas reconnu. Et puis comme je m'étais amusé, je me suis pris au jeu. Puis petit à petit, bah voilà, j'ai été piqué par le virus.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et puis après, c'est l'engrenage.
L'engrenage du
cinéma, mais avec toute la dimension que ça a d'être un interprète, un comédien qui va interpréter des rôles. Et justement, à propos des rôles, est-ce qu'on peut, Slimane Dazy, dans votre carrière, qualifier des rôles qui sont souvent des rôles à assignation, d'être un Slimane Dazy comme comédien, je veux dire un comédien maghrébin, un comédien beurre, toujours, comme l'Africain pourrait être un comédien africain, mais certes, même avec sa couleur de peau, il peut être africain, mais qu'on ne l'assigne pas à être un rôle d'Africain dans le cinéma, qu'on n'assigne pas le beurre d'être un rôle de beurre, si vous voyez ce que je veux dire, ouais. ou délinquant, ou toxico, ou terroriste, récemment, etc. Donc voilà, ces rôles-là ont existé dans votre carrière, mais il en est d'autres plus importants. Et qu'est-ce que vous pensez un peu de cette assignation qu'on donne aux singularités des comédiens, justement, à être ce qu'ils sont?
Alors, ce que j'en pense, c'est que, bien évidemment, je fais mon casting sur les propositions qu'on me fait, parce que je reste quand même un homme libre. Ça veut dire que j'ai beau être un comédien, il arrive un moment où moi, je veux bien travailler pour quelqu'un, mais j'ai le droit de choisir. Donc, à partir de là, il est évident que quand on me propose un personnage de voyous, de caïds...
Ou de terroristes.
On va y aller petit par petit. De voyous, de caïds, si on écrit un personnage comme l'ont écrit Jacques Audiard, Abdelraouf Dafri, Nicolas Peufahy et Thomas Bidien dans Un prophète, un personnage comme Brahim Latrache, mais je signe tout de suite. Mais c'est pas tout le monde qui sait écrire ça. C'est pas tout le monde qui sait écrire des personnages comme ça. Donc j'en ai eu un comme ça. Et puis, j'en ai eu d'autres où c'est un personnage qui s'appelle Abdel ou machin, et qui sont des vrais personnages. Là, j'y vais, et je fais mon job, et je le fais avec plaisir et avec passion. Par contre, quand on m'envoie des vulgaires caricatures, quand bien même c'est un grand nom du cinéma international, qu'on nous envoie des vulgaires caricatures de personnages, et qui sont censés représenter une histoire très 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 contemporaine, pour pas dire d'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, et pour représenter, pour être ni plus ni moins que la caricature dégoulinante d'un terroriste, et comment dirais-je, où il n'y a aucune nourriture artistique.
Mais ça, vous refusez?
Ça beau être le plus grand des réalisateurs, j'arrêterai de citer les noms, j'y vais pas. J'y vais pas. Il peut y avoir le plus gros cachet, j'irai pas non plus. Voilà.
Un homme intègre, Slimane Dazy. Sur cette question-là, en tout cas, c'est important. J'essaye. C'est l'engagement dont vous parliez tout à l'heure,
bien sûr,
qui vous accompagne toujours.
Mais bien sûr. Et ça, j'essaye de m'y battre. C'est ce que j'ai reçu par mes parents, et c'est ce qui fait que voilà, ce qui me reste à moi, ma richesse, c'est ma dignité. Voilà. Si je perds ça, qu'est-ce qui me reste?
Et ça, c'est la transmission.
C'est vital. C'est vital.
Elle vous porte encore aujourd'hui?
Bien sûr qu'elle me porte. Ah ben bien sûr. Ouais.
On va poursuivre sur votre récit, Indigène de la Nation, Slimane Dazy, ce livre qui porte justement, vous venez de parler de vos parents, il y a aussi des passages qui sont liés à l'Algérie aussi dans votre livre, à votre histoire personnelle. C'est important aussi, la famille ici, la famille là-bas.
Alors, la famille là-bas, très honnêtement, j'ai la famille là-bas, j'ai les cousins germains que j'ai rencontrés quand j'étais jeune. Mais moi, la famille, c'est le noyau dur, c'est celle qu'il y a ici. C'est vraiment mon vrai noyau dur. Et puis quand je vais là-bas, bon, bah c'est un petit peu le folklore. Je suis très content de les rencontrer, c'est très bien. Mais ma famille, c'est d'abord le noyau dur. Les parents, les frères et sœurs, et puis les cousins germains très 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 proches. Voilà. Pour dire la vérité, c'est exactement ça, la famille. Et c'est ce qui fait que, quand je vais en Algérie,
Des retrouvailles,
oui,
c'est plutôt agréable.
Des retrouvailles, c'est agréable. Mais il reste, ça reste ni plus ni moins que quelque chose de convivial, de chaleureux, de fraternel, mais sur une petite période. Voilà.
Il y a une période professionnelle aussi. Vous avez déjà tourné en Algérie?
J'ai tourné en Algérie. Je rentre de tournage en Algérie il y a pas une semaine. Hein, je suis rentré le 4 mai. J'ai tourné pour une série qui va passer pendant le Ramadan, qui a été une série qui a fait un succès extraordinaire l'année dernière, qui s'appelle El Khawa. Donc c'était El Khawa 1. Et donc je tourne sur El Khawa 2 avec mon ami Jamel Barek, avec Lies Salem qui est venu aussi se prêter au jeu, et Samir Ghesmi. Je ne me souviendrai pas des autres comédiens. Si, il y a Carmen Lobos, cette grande actrice libanaise qui était avec nous aussi. Il y a Lydia Larini qui jouait le personnage de mon épouse. Et puis bien d'autres que je m'excuse.
Donc les Algériens, les Algériennes vont vous découvrir
absolument.
À la télévision algérienne, ouais, du coup.
Absolument. Idir Benaïdouche, pardon, excuse-moi, surtout je ne t'oublie pas, mon petit Idir. Non, je ne t'oublie pas. Merveilleux acteur. Et donc voilà, ouais, ils vont me découvrir et puis on va voir ce que ça va
donner. Et puis d'autres projets, on aura l'occasion d'en reparler. On se retrouve dans un instant, Slimane Dazi, Indigène de la Nation, c'est le titre de votre livre, il vient de paraître aux éditions Don Quichotte.
Voix au chapitre sur Beur FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beur FM.
Slimane Dazi est l'invité de rencontre. Nous parlons de Indigène de la Nation. C'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Don Quichotte. Nous avons parlé longuement et passionnément, surtout Slimane Dazi, de son métier, de son identité, de son histoire. Et il est un temps qui est important aussi dans votre vie, Slimane Dazi. C'est ce temps qu'ont connu tous ces jeunes Algériens, appelés sous les drapeaux algériens et le service militaire. Et là aussi, ça a été un moment très, très important pour vous, cette période-là. Vous en parlez aussi dans votre livre.
Oui. Alors, c'est un moment très important, mais je ne savais pas où j'allais, hein, puisqu'on ne m'avait pas donné la nationalité française et qu'en 1977, j'ai récupéré une carte de résidence. Je me suis fait appeler pour faire mon service militaire en Algérie.
Deux ans ?
Deux ans, exactement. Donc je suis parti, à l'époque j'habitais à Cachan, donc la sous-préfecture c'était le consulat d'Algérie, 94 c'était Ivry, donc c'était Vitry-sur-Seine, pardon, et donc j'ai récupéré mes papiers, mon billet d'avion, et je me suis retrouvé parachuté à Alger, que je n'avais jamais vu de ma vie, parce que moi mes parents sont originaires de la région de Tlemcen. Et j'arrive à Alger et sur un nom d'un ami qui m'a présenté un ami à lui qui vit à Alger et qui a sa famille là-bas et qui a un appartement là-bas. Sur un nom, je suis arrivé avec mon frère Moussa. Nous avons atterri à Alger, on a pris le bus, puis on est arrivé à Bab El Oued, avenue de la Marne, marché Nelson, plein cœur du vieux centre populaire d'Alger. Et là, je demande à un petit épicier est-ce qu'il connaît telle et telle personne. Il me dit, il habite juste là, mais t'inquiète pas, je vais aller le chercher. Et donc, on arrive et j'ai passé 9 mois et demi juste sur, grâce à la relation d'une personne par une autre, parce que c'était ce que faisaient déjà nos anciens quand ils arrivaient du bled, ils arrivaient en France sur un nom, on leur trouvait un travail, on leur trouvait un logement, c'était ce qu'on appelait la solidarité. Et 79, ça existait encore en Algérie, en 1979, et moi j'ai vécu 8 ans et demi à tenir le mur, parce que j'ai pas fait mon service militaire, et je pense que c'est un... Ouais, je suis soulagé, parce que j'avais pas envie, primo, et puis secondo, je pense que je me serais retrouvé dans des situations
difficiles d'adaptation quand même.
Non seulement difficile.
C'était le grand écart, Nanterre, Bab El Oued.
Non seulement difficile d'adaptation. Je parle pour faire le service militaire parce que j'ai rencontré quelques émigrés, on va dire, comme moi, qui faisaient le service militaire. Ils n'avaient pas beau jeu. Hein. C'était pas évident, quoi. Et donc moi, ce que j'ai vécu, par contre, à Bab El Oued, c'est donc plutôt que de faire le service militaire, j'ai donc attendu ma carte de réforme d'exempté, puisque j'ai été exempté en tant que soutien de famille. J'ai vécu 8 mois et demi avec les gens de là-bas. Donc j'ai vécu à l'algéroise et surtout avec la jeunesse algéroise de cette époque, quand on a 20 ans et qu'on n'a que des rêves pour pouvoir mettre un pied devant l'autre. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, mais vraiment jamais, jamais, jamais. C'est des gens qui n'ont rien, et ce rien, ils partagent.
Alors, quand vous rentrez de ce cours, pas service militaire, mais en tout cas, c'est 8 mois et demi passés à Alger, vous rentrez en France et votre vie continue ici avec toujours ces interrogations identitaires. Hein, vous avez tenté la nationalité française, ce parcours du combattant, terrible parcours du combattant, cette humiliation quand t'as parler la langue française, vous demander à parler la langue française un certain matin là pour obtenir la nationalité française. Aujourd'hui, vous en êtes où dans cette quête d'identité? Vous êtes toujours en colère, amer, c'est toujours compliqué cette circulation que vous vivez quand vous devez vous déplacer avec ce passeport vert?
Ouais, alors
j'allais presque dire plus que jamais au vu de l'actualité internationale, mais
Oui, aujourd'hui le passeport vert il s'est transformé en arme de papier. C'est une arme, hein. C'est ni plus ni moins qu'une arme, parce qu'on te met de côté, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai raconté quand je suis parti en Bulgarie, quand je suis parti dans différentes destinations, je veux dire à l'étranger, et à chaque fois on te met de côté parce que c'est le passeport qui interpelle. Voilà. Donc oui, ça reste tout le temps humiliant, frustrant, fatigant, usant. Mais bon, je baisse pas les bras. Et surtout, le fait d'avoir écrit ce livre, ça m'a permis d'évacuer une grande, grande colère. Une grande colère qui était en moi. Et ça m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses de par rapport à d'autres personnes qui sont dans d'autres situations.
Ce que vous rappeliez tout à l'heure, que c'était aussi pas comme porte-parole, mais en tout cas d'une certaine manière, c'est votre histoire, elle est singulière, c'est sûr, mais elle ressemble aussi à tant d'autres de jeunes de votre génération qui sont toujours algériens aujourd'hui. Vous tenteriez pas une autre tentative d'aller acquérir la nationalité française?
Si je vais être honnête, je vais la tenter juste après avoir publié ce livre. Maintenant que ce livre est publié, ça va être un récit qui va être vu sur partout sur la place publique. J'espère qu'il y aura des politiques qui vont pouvoir le lire et qui ça va peut-être les interpeller. Voilà, j'espère que ça va pouvoir les interpeller. Mais ce récit me fait dire que aujourd'hui je peux envoyer mon dossier de demande de réintégration à la nationalité française en souhaitant que le retour soit favorable, soit positif. Et en envoyant ça, évidemment que je lance je tends cette perche pour moi, mais aussi pour tous les autres, évidemment.
Vous écrivez « Je pense que dans mes attitudes, dans mon quotidien, mon état d'esprit, je ne me sens pas français mais parisien, un titi parisien ». C'est vrai qu'en vous entendant, vous êtes terriblement parisien?
Je suis parisien, quoi. De fait est, c'est que je suis né à Nanterre. À l'époque, les départements de la Seine, c'était 75. Paris. C'était Paris, hein. Donc oui, je suis parisien parce que j'ai arpenté tous les pavés de Paname, que ce soit du 14e dans ma jeunesse.
Un peu les bistrots, un peu l'ambiance, l'univers parisien, tout.
Le poète qui m'a bouleversé, le premier poète qui m'a bouleversé, le premier, on va dire, le flot du poète qui m'a bouleversé, c'est Renaud. Il n'y a pas plus parigot que Renaud. En tout cas, le Renaud de l'époque, notre Renaud à nous, celui qu'on garde dans nos veines, quoi, celui qu'on garde dans nos verres et dans nos veines, celui avec lequel on a trinqué, celui avec lequel on s'est chiffonné, etc. Oui, je suis un titi parigot à 200%, à 200%. Alors français, l'idée, oui. Mais je suis sincèrement désolé, comment je peux me sentir français quand je me fais refouler, quand je monte à l'avion, comment je peux me sentir français? Il arrive un moment où je veux bien être schizo, mais jusqu'à un certain point. Voilà, je suis Titi Parigo, pour le moment je suis pas encore français. Voilà.
Le livre se termine sur l'énumération des documents à fournir pour la nationalité française, pour ceux qui veulent y arriver. Vous avez le mode d'emploi, en tout cas à la fin du livre, mais vous avez surtout votre belle histoire, Slimane Dazy, qui est racontée ici dans Indigène de la Nation, ce récit que vous nous livrez, qui vient de paraître aux éditions Don Quichotte. Un livre se termine, il fera l'objet, comme vous le dites, peut-être d'une circulation pour faire avancer le chemin public de l'accès à la nationalité française. Mais dans votre carrière, où vous en êtes aujourd'hui?
Dans ma carrière, j'en suis film en boîte, oui, qui devrait sortir. Alors c'est un film que j'ai tourné l'année dernière entre la Bulgarie et le Maroc pour Netflix, qui s'appelle The Angel. C'est l'histoire de Marwan Ashraf, qui était le gendre de Gamal Abdel Nasser, qui était un des agents des services secrets égyptiens, mais en même temps un double agent qui travaillait aussi pour le Mossad. Moi, j'interprète un des personnages qui s'appelle Sami Sharef et qui va lui déceler toute cette ambiguïté petit à petit. Et puis voilà, après je laisse découvrir. Mais je pense que ça va être un très très joli film. C'est un film de Ariel Vroman. Et sinon, j'ai fait l'actualité, c'est aussi le film de Jochen Hoeben, hollandais. Alors, je travaille beaucoup avec les étrangers, hein. Voilà, même si j'ai difficulté à voyager, en tout cas, eux, ils ont aucune difficulté à m'écrire des personnages. J'ai donc tourné sur le film de Jochen Hoeben qui s'appelle... je me souviens plus du titre. Et à venir, je pars tourner en Norvège pour une série. Je pars donc à la fin du mois de mai. Et puis, je reviens, et puis je pars à la fin du mois de juin pour tourner sur une série en Irlande, voilà. Et puis après, j'espère pouvoir concrétiser ce projet qu'on a en commun avec Tony Bayarja depuis maintenant bien 5 années. C'est un scénario qui aujourd'hui a été signé par une production qui s'appelle 4 filles et qui s'appelle Far West. Voilà. J'espère vite pouvoir enchaîner sur ce projet. Là, c'est cinématographique et c'est un sublime scénario qui j'espère pourra être mis en image. Voilà. Ouais.
De vos projets à venir, j'espère l'occasion de vous revoir autour du cinéma, justement. Merci en tout cas de ce livre. Merci d'être venu à Beurre FM. Slimane Dazy, Indigène de la Nation. Ce livre vient de paraître aux éditions Don Quichotte.
Merci à vous, merci beaucoup.
Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour merci, un autre Samia. Rendez-vous de rencontre. Au revoir à tous, au revoir à toutes. D'ici là, passez une bonne semaine.
Voix au chapitre sur Beurre FM.